Bienvenue à tous dans le mag de l'été.
Que puis-je encore vous dire, sinon que nous devons et pouvons inventer de nouvelles surfaces de jeu et ouvrir avec elles, seuil après seuil, l'espace d'une traversée mémorable et transmissible. De telles traversées ne sont possibles que si on abandonne les vertiges, les panoplies et les arrogances de la grandeur, de la maîtrise et de la performance. Que si l'on accepte au contraire, ce qui est bien plus exigeant et plus difficile, de se considérer comme des sortes d'apprentis. Être et demeurer l'apprenti de son métier, de son art ou de son mode d'existence, cela aura été le leitmotiv de tous ceux qui ont parié sur la recherche et se sont détournés de l'exploitation des acquis. C'est à ce prix que ce que les philosophes et les poètes ont appelé l'ouvert peut être retrouvé, maintenu et propagé. L'ouvert, certainement pas un substantif avec une majuscule, certainement pas un domaine réservé, mais ce qui s'ouvre sans fin, devant nous comme en nous, aussitôt que nous nous accordons au temps de sa venue.
Bonjour Nicolas Bouchaud.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire ?
Texte de Jean-Christophe Bailly qui s'appelle « Ralentir ».
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Après le cinéma, hier, nous vous emmenons au théâtre ce soir. Qu'espère-t-on lorsque, installé dans un fauteuil, la lumière s'éteint dans une salle pour éclairer la scène ? Être ému, diverti, secoué, grandi ? On espère en tout cas qu'il se passe quelque chose. Il se trouve que c'est assez rare, mais c'est toujours le cas lorsqu'on voit surgir en scène Nicolas Bouchaud. Il a l'art de créer l'événement à chacun de ses spectacles. Qu'on le voit pour la première ou la vingtième fois dans Ibsen, Shakespeare, Brecht, Molière, Thomas Bernhard ou Celan, on est toujours surpris. Il invente et réinvente au gré de ses rôles une façon d'être en scène qui n'appartient qu'à lui. Le quatrième mur est tombé, le spectateur directement concerné et embarqué dans son univers foisonnant jusqu'au délire pour un théâtre follement vivant.
France Inter. Duh. Le mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Nicolas Bouchaud, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'entrer dans l'émission avec ce texte de Jean-Christophe Bailly ?
Mais parce que je l'ai fini hier soir.
Oui.
Et que c'est un recueil de conférences qu'il a donné. Le titre s'appelle « L'élargissement du poème ». Donc il y a des textes sur la poésie que je trouve très beaux et très intéressants. Et ce dernier texte, c'est « Ralentir ». C'est un discours qu'il a fait en Chine. Mmh. Et voilà, il a, je trouve parfois, Jean-Christophe Bailly, une façon de trouver les expressions justes qui font que, pour moi, ça, comme il dit à la fin, ça ouvre un horizon à chaque fois.
Alors, en pensant musicalement à vous pour l'émission Nicolas Bouchaud, je ne sais pas pourquoi, mais Bob Dylan est apparu comme une évidence.
Bien, c'est bien.
Bon, on l'écoute dans Hurricane.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Mm-hmm.
out of town. Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just now prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plate. Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty
Inter. Le Mac de l'été, Anna Sigalevitch.
Alors si on a choisi d'écouter cette chanson, Nicolas Bouchaud, de Bob Dylan, Hurricane, c'est aussi pour ce qu'elle raconte, hein. C'est une protest song dans laquelle Dylan défend le boxeur Rubin Carter, surnommé Hurricane, qui fut accusé d'un triple meurtre, qu'il a toujours nié, il a été condamné à presque ce que Dylan appelle un faux procès, un cirque, hein, parce qu'il, lui, il a toujours nié en fait sa culpabilité. Est-ce que vous me voyez un petit peu venir? Parce que
oui,
cette chanson
bien.
Parle aussi de l'individu face au pouvoir, face à la pensée dominante. Voilà, donc je pense bien sûr à...
Un ennemi du peuple.
Absolument, un ennemi du peuple.
D'Ibsen.
D'Ibsen, qui est une toute autre histoire, hein, bien sûr, mais cette pièce mise en scène par Jean-François Sivadi interroge aussi la place de l'individu et la façon dont ça peut arranger une communauté de trouver sa bête noire.
Un bouc émissaire, oui. On peut voir, la grande qualité une des grandes qualités de la pièce d'Ibsen, Un ennemi du peuple, c'est qu'elle est, on peut la lire de plein de façons différentes, on peut l'entendre et la recevoir de plein de façons différentes. Ce qui est intéressant, c'est que ce docteur Stockman, donc qui est le héros de la pièce.
Que vous incarnez?
Oui. Enfin, le héros, c'est pas un héros, justement, est pris comme bouc émissaire par la communauté dans laquelle il vit, mais c'est quelqu'un qui, au quatrième acte, quand il va être dans la réunion publique, va émettre certaines idées et va prononcer certains mots qui sont pas forcément... Il y a un discours de la part d'Ibsen qui est tout à fait antidémocratique.
Hein, oui, c'est absolument
discutable. Et qui, effectivement, prône l'individu au-dessus de tout. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Ibsen n'est pas un moraliste. Donc, quand son docteur Stockman s'exprime à ce moment-là de la pièce, il le fait, parce que Ibsen a l'art du théâtre, en situation, c'est-à-dire qu'il le fait dans un état de perdition, et donc lui qui est médecin et qui n'a jamais fait de politique, donc tout d'un coup il se retrouve face à
une tribune, parce qu'en fait, pour raconter un tout petit peu l'histoire, donc le docteur Stockman vit dans ce petit village, il est médecin, et puis il découvre que les eaux du village sont empoisonnées. Après donc des expériences scientifiques, donc il se dit mais c'est pas possible, il faut que j'alerte absolument la population. Il le dit à son frère qui est le maire de la ville, et le frère dit ah oui d'accord, mais non. Et puis en fait il se rend compte que personne ne veut savoir que les eaux de la ville sont empoisonnées, parce que ces eaux elles sont en fait elles font la richesse de la ville, qui a tout construit autour d'une station thermale.
Ouais, de l'établissement thermal, absolument. Et il va très vite s'apercevoir via son frère qui est donc le maire, le préfet, que les actionnaires des bains ne veulent absolument pas fermer les bains pour faire des travaux et pour que l'eau puisse devenir saine et potable. Donc il va se heurter à ça, mais au début, Hofstadt, le journaliste du journal du coin...
est avec lui. complètement.
Le messager du peuple, ouais, qui ouais. est le titre du journal, est complètement avec lui et le pousse. Et puis, à Saxen, qui représente l'association des petits propriétaires et qui dit, mais Dr Stockmann, on sera derrière vous, vous avez fait une découverte incroyable, voilà.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, votre personnage hein, de Stockmann, il bouge aussi parce que il se rêve en héros et il y a quelque chose de mégalo chez lui. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est aussi, il y a de l'ironie, il y a de l'auto-ironie, il y a les deux. Et c'est ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce texte d'Ibsen, c'est que on nous donne pas du tout la leçon. En fait, chacun s'arrange aussi et chacun essaye de trouver son compte et ses petits arrangements au moment opportun. Oui, il y a beaucoup d'opportunisme de la part de tout le monde.
Bah, ce qu'on a essayé de faire avec Jean-François Sivadier et Véronique Timsit et puis toute l'équipe, c'est d'essayer de faire un peu frotter des contraires, de s'opposer des contraires et d'essayer de pas avoir une vision trop, parce qu'on peut tout à fait monter cette pièce en disant le docteur Stockmann est un comme on dirait aujourd'hui un lanceur d'alerte. Et il aurait raison du début jusqu'à la fin.
Or, c'est bien plus complexe que ça dans ce qui est mis en scène dans la pièce de Sivadier. Et donc, il y a en effet ce moment qui est phénoménal, hein, il faut le dire. C'est quand même hallucinant ce qui se passe à l'acte 4, vous en parliez. C'est presque une pièce dans la pièce hein, où vous prenez des libertés, même avec le texte. Donc, Stockmann organise un meeting pour convaincre le peuple, alerter l'opinion publique. Et là, ça dégénère totalement.
Ce ne sont pas les notables le pire ennemi de la vérité et de la liberté dans la société.
C'est qui alors ? Donnez-les noms.
Je vous le dis. Le pire ennemi de la vérité et de la liberté dans la société, c'est la majorité compacte. C'est la satanée compacte majorité. C'est elle qui constitue le plus grand danger.
Le président demande à l'orateur de retirer ses propos.
Non. Je confirme à Saxen, c'est la majorité qui nous prive, qui me prive de ma liberté, c'est elle qui m'empêche de dire la vérité!
Quel plaisir de vous entendre. Alors, vous parlez de vous, comédien, du fameux rapport public aussi dans ce grand monologue. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans le spectacle, c'est qu'en interrogeant la place de l'individu dans le collectif, vous faites un parallèle avec le théâtre. Et vous vous adressez à nous, spectateurs, qui écoutons de grands textes, de grandes idées, mais quels impacts réels, concrets ont-ils hein, c'est aussi le pouvoir du théâtre qui est questionné dans cette pièce.
Ben oui, c'est-à-dire que bon, là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le texte d'Ibsen. Oui. Après, nous, on l'a fait dévier. On y a ajouté un bout d'un philosophe allemand qui s'appelle Gunther Anders et qui a tiré d'un texte qui s'appelle La violence, oui ou non. Donc, est-ce qu'il faut avoir recours à la violence ? Faut-il avoir recours à la violence quand des gens s'accommodent de la catastrophe possible de notre disparition ? À cette époque, Gunther Anders écrit ça et dit ça parce que c'est Tchernobyl. Voilà. Et donc, ça a été un grand militant, Anders, de toutes ces causes-là. Et donc, il fait un texte, la violence, oui ou non, et il interroge cette chose-là de la violence. Mmh. Bon. Est-ce qu'il faut réagir face à des gens qui s'accommodent de la catastrophe? Et ensuite, on glisse, c'est le texte qu'on a fabriqué en répétition. Ensuite, on glisse sur une improvisation que j'ai faite les premières fois en répétition. Et ensuite que j'ai un peu fixé sur le papier, voilà, et qui part du théâtre et qui part de l'idée de ça suffit le théâtre et de dire le théâtre est la démocratie, la Grèce antique, tout ça, Eschyle et son orchestre.
On n'est pas à la même place, nous spectateurs et vous acteurs, c'est pas vrai.
Voilà. Moi, je suis sur une scène, pas vous. Donc c'est essayer.
Qui a le pouvoir ?
Voilà. C'est essayer d'organiser. Il n'y a pas d'égalité, en fait. Donc, je dis à Stéphane Butel qui fait Aslaksen, donc ne me parlez pas de démocratie, parce que là, dans la situation dans laquelle on est au théâtre, dans une salle, moi, je suis sur une scène. Vous êtes dans la salle.
Donc, concrètement, vous parlez, nous, on écoute. Voilà. Et vous allez assez loin, parce que vous dites, mais vous êtes, à un moment donné, vous adressez au spectateur, vous dites, mais vous êtes des veaux, parce que quand le spectacle est bien, alors vous applaudissez à tout rompre, mais quand le spectacle est nul, ben vous applaudissez
pareil.
Parce
que là, je dis ce truc que j'aimais bien, que j'aime beaucoup dire, c'est, moi, je vois des spectacles extraordinaires. Les gens applaudissent à tout rompre, c'est très bien. Oui. Je vois des spectacles nullissimes, les gens applaudissent quand même. Oui. Donc là, il y a un problème. Donc là, on est dans le dur. Donc là, il faut vraiment qu'on se parle. Voilà. Et là, je dis tout de suite, on est dans le dur, on est dans l'acte 4 de la pièce d'Ibsen, et moi, je dois m'adresser à vous, et je dois, voilà. Juste avant, j'ai dit, j'en peux plus du rapport public, j'en peux plus de vous parler, en plus, je dois vous violenter, donc, et en même temps, je suis dans le rapport public, donc je suis quand même dans un rapport de séduction, etc. Donc voilà, là, on bascule sur qu'est-ce que c'est que la situation de l'acteur sur un plateau au moment où il joue, et c'est de ça dont je parle, en fait. Voilà, là, je m'adresse à vous, je dois être très violent avec vous parce que c'est ce qui est écrit dans le texte. En même temps, dans ce rapport public, bon, bah, je suis quand même obligé d'être. J'ai pas envie de vous apparaître trop antipathique. Enfin, on joue sur ces choses-là. Ouais. Donc, il y a comme l'organisation d'un chaos.
C'est ça.
C'est-à-dire, comme ça.
Et l'interrogation de la forme de qu'est-ce qu'on fait.
Comme si un acteur, ça c'est toujours très beau parce que, par exemple, on pense. Enfin, quand on joue, et parfois dans les très bonnes représentations, et quand après on vous dit mais c'était vraiment incroyable ce soir et tout ça, c'est pas forcément des représentations où on a vraiment pensé simplement à ce qu'on faisait. C'est-à-dire que quand on joue, on pense à plein de trucs. Et on peut tout à fait jouer tout en remarquant qu'il se passe ça, ou dans la salle, etc. Et donc c'était comment on organisait cette chose qui est assez étonnante, que tout d'un coup un acteur joue, et puis tout d'un coup, il dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Là je suis en train de vous parler. Enfin, voilà, de ramener du présent et d'être dans l'interrogation de qu'est-ce que c'est que l'acte de jouer.
De jouer
fait.
Et d'être en scène. Ouais. Alors cette interrogation, elle est possible aussi parce que vous êtes avec Jean-François Civadier qui vous met en scène. C'est un compagnonnage de très très longue date. Vous l'avez rencontré en 1993, vous avez créé votre premier spectacle ensemble en 1999. Voilà, j'ai demandé à Jean-François Civadier de nous raconter.
J'ai écrit et mis en scène un spectacle qui s'appelait Noli Me Tangere, qui était une adaptation très libre de l'histoire de Salomé. Et j'ai eu l'occasion d'écrire pour Nicolas le rôle assez délirant de Ponce Pilate et le rôle de René, qui était un avatar du bottom du songe d'une nuit d'été de Shakespeare. L'idée, c'était pas que je me pose... Moi, comme metteur en scène de l'extérieur, en train de rêver tout seul à son projet, à sa distribution, à sa scénographie, l'idée c'était plutôt de construire un rêve ensemble. Donc on s'est beaucoup réunis avec Véronique Timsit, Nadia van der Heyden et Nicolas pour essayer de rêver ensemble le spectacle qu'on allait faire. Et donc ce qui a été intéressant, c'est que comme Nadia et Nicolas étaient acteurs dans le spectacle, hein, ils étaient aussi comme des metteurs en scène finalement à l'intérieur du plateau. Avec en plus cette particularité avec Nicolas, c'est que quand je le vois jouer, j'ai toujours un peu l'impression de me voir moi en train de jouer à un certain moment. Voilà, avec évidemment la chose que lui emmène son travail d'acteur dans des zones qui me sont en même temps familières et complètement, qui me semblent complètement délirantes. Et ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas monté Le Roi Lear ou La Vie de Galilée pour lui, mais c'est lui qui m'a permis de me découvrir moi-même metteur en scène de Shakespeare et de Brecht. Donc voilà, on sait bien que ce sont les textes et les metteurs en scène qui font les acteurs, et ce sont aussi les textes et les acteurs qui font les metteurs en scène.
Pas mal hein, ce qu'il dit. Ouais. C'est une rencontre exceptionnelle, celle avec
Jean-François Civadier. Oui, tout à fait singulière, exceptionnelle, assez unique...
Et le désir de travailler ensemble ne se tarit jamais.
Non,
à quoi, 10 pièces,
quelque
chose comme ça.
On a depuis Noli Me Tangere, c'était en quelle année?
99.
Voilà, depuis 99.
20 ans.
Je sais pas combien de pièces ça a fait. Ça fait en tout une dizaine, une quinzaine. Mais Jean-François aussi, le regard de Jean-François m'a fait aussi grandir et avancer comme acteur.
Tête à demi penchée, faisant une moue dubitative. Rêve dans le semi-remorque. Les fous prennent tous les risques. Les fluves de l'arène me fait bouillir. J'ai le cœur au combat, même en temps de crise. Les effets de l'adrénaline me défendent mes affaires câlines. J'ai pas idée combien l'accès au palier va me faire pâlir de vertige. Mais ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus, les vertiges. Donc ce soir, je veux me délecter hilar de cet élan qui ne s'arrête plus. À l'horizontale, je te prends. pense qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale. Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale. Puis on verra si à l'horizontale. Tremper ses lèvres ou tempérer la fièvre. Appuyer sur ma clavicule, légèrement tourner vers ma nuque pour que mes yeux te bougent. Parce que ta bouche coule parfois jusqu'au bout de mon menton et m'embrasse très tendrement. Avec toi, j'ai tout mon temps, les bras m'entourent, mais tantôt je ne dis rien car ça me va bien d'être envoûté par tes tentacules. J'ai pas de fascicule pour savoir comment m'adonner à cette sainte donation de nos corps entremêlés. Faudrait-il faire attention à l'horizontale? Je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. À l'horizontale, je te propose qu'on à l'horizontale. On pourrait peut-être à l'horizontale, puis on verra si à l'horizontale. Tu voulais la mer, donc je te l'ai donnée. Les draps trempés, c'est pas que pour la scéno, moi je suis polisson. Tu me regardes en souriant, le baiser a fait le beau car je vois bien comme il t'a eu. Je suis rentré sans frapper, c'est une mauvaise habitude. L'approche a cédé à l'accroche qui s'est agrippée sans litige. À plus tard, on se rappelle. Si je te crois, je te reconnaîtrai. J'ai même espoir qu'on se reconnecte.
Vous êtes sur France Inter dans le MAG de l'été. C'était À l'horizontale par Aloïs Sauvage. Alors vous, Nicolas Bouchaud, si je peux me permettre, vous êtes plutôt un acteur vertical. Non, vous êtes tout à fait bondissant et sur le qui-vive comme acteur.
J'aime bien, oui, j'aime bien me tenir debout.
Ouais, ouais.
Absolument.
C'est ce qu'on sent, absolument.
J'aime pas m'asseoir, c'est vrai.
Comment est-ce que vous êtes venu au théâtre, Nicolas Bouchaud?
Ouf.
Oui, vaste question. Ouais, ouais.
Ouais. Petit à petit, j'étais pas persuadé à 18 ans de devenir acteur. Et puis j'ai lancé plusieurs choses en même temps. En fait, je savais que j'avais envie de. J'aimais beaucoup le lieu du théâtre. Mmh. J'aimais beaucoup le bâtiment du théâtre. J'aimais beaucoup être dans un théâtre. Mmh. Mais à une
vous
époque,
vous sentiez protégé, vous sentiez bien,
oui, absolument.
Bien dans un.
Je
dans
me
un,
sentais
comme dans un habitat.
Comme dans une maison.
Comme dans
absolument,
une maison.
Absolument. Mais je ne me projetais, je me suis pas projeté immédiatement sur scène en train de jouer. C'est venu vraiment au fur et à mesure. Et puis c'est venu de plus en plus quand j'ai compris, senti le plaisir physique qu'on pouvait avoir à jouer la comédie.
Et en effet, c'est un plaisir qu'on ressent et qu'on éprouve nous beaucoup comme spectateurs. Vous êtes, je dois dire, un acteur tout à fait à part dans le paysage du théâtre français. Nicolas Bouchaud, j'ai demandé à Jean-François Suvadier d'essayer de définir un petit peu l'acteur que vous êtes.
Alors si je devais essayer de définir l'acteur qu'il est, c'est difficile. Moi j'aime bien, par exemple, les cinéastes qui, quand ils font des films, parlent de leur rapport au cinéma, ou les metteurs en scène de théâtre qui parlent de leur rapport au théâtre dans leur mise en scène, qui réinterrogent l'outil. Et voilà, il me semble que Nicolas, dans son jeu, interroge le théâtre même, la forme du théâtre et le sens du théâtre. C'est un programme large, hein, comme si chaque spectacle s'inscrivait dans une histoire beaucoup plus large. Voilà, enfin ça c'est des choses qui me marquent chez lui. Il y a aussi une chose qui nous vient de Gabili, c'est le rapport à la poésie. Gabili parlait toujours de la présence poétique de l'acteur. Et je pense que Nicolas est très pense beaucoup à la poésie. C'est pas pour rien qu'il a créé un spectacle sur Paul Celan. Et puis aussi ce rapport à l'écriture qui nous vient aussi de Gabili, qui voulait faire de nous des écrivains de plateau. Il avait toujours cette expression. Et puis l'idée que l'acteur est en train d'écrire sa propre parole. Et puis, très concrètement, dans le jeu de Nicolas, voilà, il y a un détail intéressant, c'est l'histoire du déséquilibre. Si on le regarde sur le plateau, on voit qu'il est toujours en équilibre, qu'il n'est jamais planté réellement sur ses deux pieds, mais qu'il est toujours au bord de la course ou de la chute. Voilà, une espèce de façon de rendre le corps dansant. Jamais figé, toujours vivant, et puis aussi ce déséquilibre du texte qui pourrait s'arrêter tout le temps, du danger de devenir brutalement amnésique ou de rater, enfin voilà, ce truc-là qui rend le jeu très riche, avec aussi chez Nicolas, je crois, l'obsession de la dépense, de la sortie du cadre, l'obsession d'une organicité du texte, du jeu, un mouvement vers la folie.
Déséquilibre, corps dansant, obsession de la dépense, ce qu'exprime Jean-François Civadier. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a l'idée du risque et du danger qu'on sent hein, dans ce qu'il dit? Est-ce que c'est vous ce que vous cherchez sur un plateau, Nicolas Bouchaud?
Oui, Jean-François le dit très très bien.
Oui, parce que parfois on connaît les gens depuis 20 ans, mais on n'est pas habitué à ce qu'ils parlent de nous finalement à d'autres gens. Et c'est ça.
Absolument.
j'ai retrouvé.
Que dire après les paroles de Jean-François, si ce n'est d'ajouter peut-être que oui, ce déséquilibre, cette façon d'avancer à vue, c'est d'être sur un plateau toujours en devenir. Voilà. Mm. C'est-à-dire d'être toujours en train de devenir quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas, il n'y a rien d'acquis sur un plateau. Mmh. On ne peut pas rentrer en disant, voilà, moi, je sais ce que je dois jouer ou je sais ce que je suis, surtout. On n'est rien du tout au théâtre. On fait et on se débat dans des situations. Et puis quand il n'y a pas de situation, ben on trouve autre chose, comme moi j'ai fait dans les spectacles que j'ai fait seul, dans les solos.
Oui, faut qu'on en parle un tout petit peu, parce que voilà, le metteur en scène Jean-François Civadier parlait de la présence poétique de l'acteur. Mmh. Donc en effet, il parlait de Paul Célon. Donc il y a eu un spectacle moi que je trouve absolument incroyable. Enfin, vous avez fait pas mal de spectacles. C'est un autre compagnonnage, celui avec le metteur en scène Éric Didry, avec aussi Véronique Tipsit hein, qui collabore oui. artistiquement au projet. C'est important, je crois. Il y a eu plusieurs spectacles. Ça a commencé avec Serge Danet, La Loi du Marcheur. Il y a eu un métier idéal, il y a eu le Méridien, et puis là, tout récemment, Thomas Bernard, Maîtres anciens, que vous allez reprendre. Parlons un tout petit peu du Méridien, qui est un spectacle très particulier, qui part donc d'un discours en 1960. Paul Celan reçoit le prix Büchner, et là, d'un discours sur la poésie, il fait une performance poétique, et c'est ce que vous incarnez en scène.
Oui, c'est un texte qui a priori peut paraître très très difficile. L'écriture de Celan, elle ne se donne pas immédiatement comme ça à qui la lit et à qui l'écoute, mais elle nous dit une chose. L'écriture de Celan qui est très très importante pour moi et qui est très importante pour le jeu d'acteur. Il dit que le poème, avant d'être quelque chose qui aurait un sens, puisque certaines poésie de Paul Celan, quand on les écoute, on ne reconnaît pas, elles ne représentent pas quelque chose. Donc, elles sont là parce qu'elles demandent de l'attention. Voilà. Et parce que, pour revenir au texte de Jean-Christophe Bailly, elles veulent ouvrir l'attention de celui, de celle qui les écoute et à qui elles s'adressent. Chaque poème de Celan est adressé à quelqu'un.
Et il le dit d'ailleurs, le poème c'est comme une poignée de main.
Bien sûr. Très important. Le poème, c'est comme une poignée de main. Donc, chaque poème est une façon de creuser l'attention de l'autre. Voilà. Il y a quelque chose comme ça dans la poésie qui fait, on arrive dans un paysage qu'on ne reconnaît pas. C'est pas grave. On y va, on écoute. Et je dis ça parce que dans le spectacle Le Méridien, on avait décidé avec Éric et Véronique que j'allais dire un poème très long de Celan qui est absolument sublime, qui s'appelle Strait, mais qui, quand on l'écoute la première fois, peut nous paraître complètement abstrait. Mais ça n'est pas grave. Voilà, comme dirait Claudel, il n'y a rien à comprendre. Il faut juste perdre la tête et accepter de la perdre.
Nicolas Bouchaud, si vous êtes d'accord, on va maintenant se promener un peu dans les nombreuses propositions culturelles qui s'offrent à nous les jours à venir, des rendez-vous repérés par l'équipe du Mac de l'été.
Allons-y vite, il est déjà tard, on n'a pas de temps à perdre.
36 ans après sa mort, un musée dédié à Louis de Funès ouvrira ses portes demain à Saint-Raphaël. Louis de Funès, c'est Polichinelle, c'est le gendarme Cruchot, l'entrepreneur Victor Pivert, le comédien populaire par excellence, l'incarnation du burlesque, du comique français. Dans le musée, accessible à tous, plus de 350 documents sur 400 mètres carrés pour un parcours composé de photos personnelles et de tournages, de dessins, des correspondances et extraits de films, ainsi que des documents rares en provenance de l'INA ou de la Gaumont. Des mots de Funès dans la traversée de Paris. Allons-y vite, il est déjà tard, on n'a pas de temps à perdre.
En dépit de ma mélancolie bien compréhensible, je n'ai jamais rien pris au sérieux.
Il y a 12 ans, jour pour jour, le réalisateur Ingmar Bergman nous quittait, à 89 ans, sur son île de Faro. Depuis, ses films ne cessent de nous habiter, tant son cinéma nous rapproche de nous-mêmes et de l'énigme de l'être humain. Le théâtre est mon métier, le cinéma, ma vocation, disait Bergman, qui a monté une centaine de pièces et réalisé une quarantaine de films. Alors demain sort pour la première fois en version longue, restaurée, son chef-d'œuvre Fanny et Alexandre, un film sur l'enfance, sur la perte, sur le basculement. Une déclaration d'amour au théâtre aussi magnifique dans les salles à partir de demain. Les corégies d'Orange, plus ancien festival lyrique au monde, ont lieu chaque année dans un immense théâtre antique à l'acoustique exceptionnelle. Tous les grands noms s'y sont produits. Alors au programme cette année, notamment Don Giovanni de Mozart, dont Goethe disait « C'est une création spirituelle d'un seul jet, pénétrée du souffle d'une vie ». La soprano Karine Dehaie sera Donna Elvira dans cette production, dirigée par Frédéric Chalin et mise en scène par David Livermore, qui se jouera ce vendredi le 2 août et mardi prochain le 6. Nous l'avons rencontrée lors de son passage à Paris. Elle nous décrit la particularité de ce lieu.
C'est un lieu particulier parce que la première fois qu'on y met les pieds, c'est juste impressionnant. On voit un mur humain, voilà, 8 ou 9 000 personnes en face de soi. Et ça, c'est très impressionnant parce que dans les opéras, forcément, on a un petit peu moins de monde, voyez, on a un petit peu moins de public. En plus, au départ, il fait pas complètement nuit, donc on voit vraiment bien, on voit bien les gens. on est assez près, il y a une certaine proximité, en tout cas avec les premiers rangs. Et c'est vrai qu'après, voilà, il y a un côté magique parce qu'on est en extérieur, que quand il n'y a pas de vent, l'acoustique est juste exceptionnelle. Et que, voilà, on entend des oiseaux qui chantent, il y a les lumières. Il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr que c'est un endroit très, très particulier.
La nature aussi. Exactement. Et les éléments sont à prendre en compte.
Et c'est vrai que la première fois que j'y ai chanté, je faisais Mercedes dans Carmen en 2004. Avec Béatrice Soria Monzón, Roberto Alagna, Ludovic Tézier. Et ça a été pour moi un choc, émotionnel, faut le dire. Et je suis très heureuse d'y revenir. Ça sera donc déjà la quatrième fois pour moi. Et c'est donc une joie et de reprendre ce rôle que je n'avais pas rechanté depuis 4 ans et de retrouver ce théâtre.
Alors Don Giovanni, c'est l'opéra des opéras, c'est comme ça que l'appelait Wagner. Est-ce que c'est un opéra en effet qui pour vous est un chef-d'œuvre qui a une place à part aussi dans l'histoire de l'opéra ?
Oui, et en plus moi je dois dire, je crois que c'est mon opéra préféré de Mozart, vraiment. Harmoniquement, il y a des choses vraiment impressionnantes. Moi, je dis que le sextoir, il se passe vraiment des choses. D'ailleurs, c'est même à partir du sextoir où on se dit que ça va mal finir pour Don Juan. Il y a vraiment une bascule pour moi à ce moment-là, dans cette partie-là du deuxième acte. Et c'est vrai que les personnages, chacun a vraiment à son identité. Je trouve ça extraordinaire, justement. Et d'avoir fait, justement, Zerline pendant un certain nombre d'années et après d'être passé à Elvire, on se rend compte, de l'importance, de la psychologie des personnages, de l'identité de chacun. Et puis, vocalement, c'est Mozart, c'est du baume pour la voix, c'est du miel.
C'est vrai que ce qui est rare, c'est que dans un opéra, c'est que tous les personnages ont des airs, peut-être un tout petit peu moins Mazzetto, mais sinon tous les personnages ont des airs absolument sublimes.
Exactement. Et les ensembles aussi sont extraordinaires.
Et les ensembles sont d'une très grande beauté.
Voilà,
et puis c'est un drama giocoso, donc il y a des choses très très riches à exprimer.
Exactement.
Et alors, on se dit aussi, je trouve, pour Donna Elvira, votre personnage, qu'il est plus riche et plus développé que chez Molière, par exemple, où c'est un personnage qui a 2 scènes seulement. Chez Mozart, on sent que les lumières sont passées par là, on sent que c'est écrit un siècle plus tard, en 1787, et on sent qu'on est à l'aube de la Révolution, et les personnages sont extrêmement riches et développés. Pour vous, j'imagine que c'est un rôle passionnant.
Oui, oui, parce que c'est le rôle d'une femme forte, hein, il faut le dire, qui est amoureuse, qui est très fidèle, qui veut sauver Don Juan, mais jusqu'à la fin, la preuve, avant l'arrivée du commandeur, c'est encore elle qui va chez Don Juan et qui veut encore le sauver. Elle fait tout par amour, fidélité, elle a cette force, et en même temps, on sent des faiblesses, c'est ça qui est juste extraordinaire, quoi.
Oui, elle est prête à se faire avoir.
Ah, mais c'est clair.
Par amour, oui.
Mais moi, j'aime ce genre de personnage où, par fidélité, on va jusqu'au bout.
Alors Don Giovanni, c'est un opéra donc incroyablement emblématique, dont beaucoup de metteurs en scène se sont emparés. Il y a beaucoup de visions qu'on a pu voir extrêmement différentes de l'œuvre, hein, jusqu'à une des réadaptations, des réappropriations qui peuvent aller très loin. Vous étiez la Donna Elvira de Michael Haneke en 2015 à l'Opéra Bastille, exact, qui était une vision très très noire et très sombre de l'œuvre.
Oui, mais avec une vraie aussi direction d'acteur. Donc c'est ça, c'était juste extraordinaire. Il y avait vraiment des détails, on allait jusqu'aux détails. J'ai beaucoup apprécié cette mise en scène. J'aimais beaucoup le rapport entre les personnages, l'état dans lequel on devait être au fur et à mesure de l'ouvrage. Il y avait une vraie évolution.
C'était une mise en scène qui était moderne. Ça se passait dans les tours de la Défense. Et le Don Giovanni était condamné par... c'était pas une vengeance divine, mais c'était la vengeance du peuple qui se déchaînait contre lui.
Non, c'est clair. Et finalement... là, Orange, c'est toujours particulier parce que on a quand même cette contrainte de la scène qui fait 60 mètres de large,
oui,
pas forcément des changements de décor. Donc on se dit que c'est souvent l'éclairagiste là qui va avoir un sacré travail, parce que c'est grâce aux lumières qu'on arrive à avoir d'autres ambiances. Et c'est toujours intéressant, je trouve, d'être dans ce contexte, parce que justement, il y a une difficulté pour le metteur en scène qui est réel, et c'est toujours pour moi une curiosité de pouvoir faire un ouvrage que l'on connaît forcément déjà, mais de le faire dans ce lieu si particulier.
Ouais. Et est-ce que vous attendez d'un metteur en scène qu'il ait des partis pris forts sur une œuvre? Est-ce que vous aimez la réinvention, la réappropriation d'une œuvre? Est-ce que vous êtes ouverte aussi aux propositions qui sont très classiques? Comment vous fondez dans une mise en scène et dans un personnage?
Si le livret est respecté, moi, il n'y a aucun souci. Hein. Après, si on comprend plus l'histoire et si on change carrément, ça me parle moins, ça c'est sûr. Après, qu'il y ait une vision moderne, une vision ancienne, par rapport au costume, évidemment, à la scénographie, moi, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais le respect du livret, ça par contre, je trouve ça quand même assez important.
Et vous discutez avec le metteur en scène?
Alors, moi, ce que j'adore, effectivement, c'est quand on a un échange avec le metteur en scène. Il y a certains metteurs en scène où on peut pas avoir d'échange, et c'est comme ça, on doit rentrer dedans. Ça, c'est toujours un peu particulier, je trouve, tout comme le chef d'orchestre, parce que c'est pareil, on arrive, on a travaillé de notre côté, on a même déjà l'expérience d'avoir fait le rôle en scène, mais après on doit être aussi malléable, ça c'est une évidence.
Malléable, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ça peut bouger énormément, les tempi peuvent être très différents, et vous ça vous engage très différemment comme
évidemment
chanteuse.
Complètement, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on répète, pour voir vraiment si ça marche, et puis avec les uns et les autres aussi. C'est toujours un travail qui, j'allais dire, particulier, oui, en fonction avec qui on travaille, et quel chef, quel metteur en scène. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand on peut avoir un échange, et avec le chef d'orchestre, et avec le metteur en scène. On peut aussi proposer des choses, ça peut ne pas correspondre, mais en tout cas, on a un dialogue. Le metteur en scène, quand il s'adapte à chaque interprète, je trouve que le travail est génial, quoi.
Sur France Inter.
Le grand écart entre Don Giovanni et la virgule du mec de l'été. C'est assez drôle. Alors, un désert de Donna Elvira dans Don Giovanni, c'était donc la Soile Isokoski sous la direction de Claudia Abbado. Et ce sera donc Karine Dehaye qui interprétera ce rôle de femme amoureuse abandonnée par ce libertin de Don Giovanni. Vous avez joué, Nicolas Bouchot, Don Gian au théâtre.
Mais Molière.
Oui, absolument.
Pas Mozart.
Non, pas Mozart.
Oui, oui.
Alors, le personnage n'est pas si éloigné quand même.
Non, mais nous, on avait beaucoup axé, enfin moi j'avais beaucoup axé sur son athéisme.
Oui. C'était pas un Don Juan qui était dans la séduction réellement, le vôtre, hein ?
Pas tellement. Non, pas tellement. Je pense que c'est pas le. J'ai pas accroché Don Juan par là, quoi. J'ai vraiment accroché Don Juan, notamment dans la grande scène avec Sganarelle à l'acte 3 où il parle de Dieu. Oui.
Alors, Louis de Funès, qu'on entendait aussi dans l'agenda, est-ce que vous êtes sensible à Louis de Funès, Nicolas Bouchot ?
Bien sûr que je suis sensible à Louis de Funès.
On peut ne pas, hein, enfin.
Non, tout à fait, mais il me fait beaucoup rire. Oui. Mais je me souviens que quand j'étais enfant, mes parents n'aimaient pas trop Louis de Funès, donc on regardait pas les...
Vos parents étaient comédiens, hein, sont comédiens.
Mon père est comédien, metteur en scène, auteur, et ma mère était comédienne. Et on était beaucoup plus, nous, du côté américain, c'est-à-dire du côté Marx Brothers.
Buster Keaton, les slapsticks, tout ça.
Et après les Monty Python et tout ça.
D'accord. Mais il y a même une chorégraphie dans Le Méridien qui n'est pourtant pas un spectacle comique où il y a Rabbi Jacob.
Bien sûr. Bien sûr.
Quand même, vous rendez un hommage.
Absolument. Mais par exemple, c'est Véronique Timsit qui m'a initié à Rabbi Jacob. Mais effectivement, il y a un hommage à Rabbi Jacob.
Sur un poème complètement tragique. Enfin, c'est un moment et sur le violoncelle de Sonia Vider-Atherton.
Absolument. Absolument. C'était parce que Celan dit, en reprenant la phrase de Buchner sur Lenz, il marchait sur la tête. Voilà, et pour lui, la poésie, c'est quand on marche sur la tête. Donc, il y a quelque chose de la folie qui se passe là-dedans, à ce moment-là.
Nicolas Bouchot, est-ce que vous avez le souvenir de votre première grande émotion culturelle ?
Très, très difficile.
Ouais.
J'en pourrais plein le terme de culturel, parce que j'ai l'impression que première quand on dit émotion. Culturel, c'est déjà une espèce de construction. Je pense que quand on est enfant, ça j'en suis certain, c'est forcément un film. On sait
votre
pas
premier souvenir, vous pensez que c'est un film ?
Ah, c'est sûr. Je pense que c'est c'est le Magicien d'Oz ou des westerns un peu de série B au cinéma rue d'Alésia qui s'appelait L'Univers et où ma grand-mère m'emmenait tous les mercredis pour voir les séances avec deux films KPDP, western. Donc mes premières expériences elles sont là
cinéma.
Ouais.
Et votre première expérience forte au théâtre, est-ce que vous en avez le souvenir? Difficile. Vous alliez au théâtre quand vous étiez petit ?
Oui, j'allais au théâtre. Je pense que c'est vitesse. Je pense que c'est une mise en scène de vitesse.
Quelle pièce ? Difficile, pardon, je vous pose une question.
Je sais plus.
À la Comédie Française, avec Ludmila Mickaël ou
Non, c'est avant.
Avant ?
C'est avant, ouais. C'est à Chaillot, mais je saurais plus dire ce que c'est, mais je me souviens que ça m'avait beaucoup marqué. La mise en scène de vitesse, ouais.
Vous me parliez de Chéreau aussi.
Je parlais de Chéreau. Ouais. Bah bien sûr. Je me souviens de Hamlet dans la cour d'honneur, qui était une merveille, bien sûr. Bien sûr, Peter Brook, le Mahabharata, tout ça.
Est-ce que vous rêvez à certains metteurs en scène ?
Vous voulez dire ?
Comme acteur.
Oui, mais je rêve surtout. Oui, il y a des gens que j'aime beaucoup. Oui. Il y a des gens dont j'aime beaucoup le travail. Est-ce que c'est d'eux que je rêve ou est-ce que c'est de la rencontre que je pourrais faire avec eux que je rêve ?
Ah ben.
Je pense que c'est plutôt de la rencontre.
De la rencontre.
Et donc c'est plutôt ça que j'attends en fait.
Je sais que vous aimez beaucoup, par exemple, un metteur en scène qui est mort, hein, qui est Klaus Maria Gruber. Je pense que vous seriez rencontré, je pense.
Oui, Gruber, c'est tout simplement un des plus grands metteurs en scène de la deuxième moitié du XXe siècle. Comme aussi, on pourrait parler de Claude Régis, qui était quand même qui est quand même quelqu'un de très important. Mais Gruber, c'est un immense metteur en scène. Immense, immense.
Vous avez l'air très surpris, vous froncez le sourcil de mon son. Mais oui, c'est un gong, parce que chaque jour, Nicolas Bouchaud, nous proçons une sorte de petit portrait chinois de nos invités, avec des questions soit inventées par nous, soit glanées dans différents questionnaires. Alors celui de l'auteur suisse Max Frisch notamment, hein, que vous connaissez bien, puisque vous l'avez utilisé dans un spectacle de Nicolas Truong, Interview.
Oui. On l'a aussi utilisé dans Un métier idéal d'après le livre de John Berger.
Dans le spectacle, c'est vrai que ils sont formidables ces questionnaires.
Et si je vais plus loin dans ce questionnaire de Max Frisch, la première fois que j'ai entendu ce questionnaire, c'est dans un spectacle que j'aimais beaucoup, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé, qui est un spectacle de Tejestan. Et c'était Franck Verkruissen qui était tout seul en scène et ça s'appelait Enquête.
Alors si vous êtes prêt, Nicolas Bouchaud, c'est parti pour la séquence Portrait chinois. Si vous étiez un mot, Nicolas Bouchaud. C'est dur pour aller vite.
Très.
Ne réfléchissez
ouvert,
pas.
Ouvert.
Êtes-vous un ami pour vous-même?
Non.
Haïssez-vous plus facilement une collectivité ou une personne déterminée? Et préférez-vous haïr seul ou au sein d'une collectivité?
Je préfère haïr au sein d'une collectivité.
Avez-vous de l'humour lorsque vous êtes seul?
Oui.
Quel espoir avez-vous abandonné?
Oh, ah, c'est dur. Hein.
C'est dur.
Je sais pas.
Si vous étiez un animal?
Un chat. Ou un ours.
Ah.
Un gros chat, quoi.
Si vous aviez le pouvoir, Nicolas Bouchaud, d'ordonner ce qui aujourd'hui vous paraît juste, l'ordonneriez-vous contre l'opposition de la majorité?
Oui.
De quoi êtes-vous reconnaissant, Nicolas Bouchaud?
De respirer.
De respirer?
Oui.
C'est vrai?
Oui, bien sûr. C'est très important.
Vous êtes heureux d'être en vie?
Oui. Il y a plein de fois, j'ai des petites épiphanies dans une journée, et c'est souvent dans les moments, évidemment, où il ne se passe rien, où on est assis comme ça, un petit rayon de soleil, un café, des choses très simples.
Et là,
je suis vraiment heureux. Ça peut m'arriver d'être très, très heureux.
Quelle mort aimeriez-vous rencontrer, Nicolas Bouchaud?
Shakespeare.
Shakespeare, pourquoi?
Parce que je serais très, très intéressé d'abord de savoir si c'est lui qui a écrit ses pièces, mais je pense que c'est lui. Non, mais de savoir comment ça se trafiquait tout ça. Et est-ce que, par exemple, les manuscrits qu'on a, c'est le résultat du travail de plateau, ou est-ce que c'est des pièces qui ont été écrites avant le plateau?
Quelle est votre devise favorite, Nicolas Bouchaud?
Ce qui me vient, c'est le pire ne peut se retourner qu'en rire.
Merci beaucoup Nicolas Bouchaud d'avoir été en direct avec nous sur France Inter dans le MAC de l'été. Vous serez donc la saison prochaine au théâtre un peu partout en France, hein, avec Un ennemi du peuple, avec Maîtres anciens de Thomas Bernard, avec Les démons, mis en scène par Sylvain Creusevaux. Partout en France, on retrouve toutes ces informations sur le site de l'émission. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe, avec l'aide de Maëlan Loeck, réalisée par Clément Baudet. À la prise de son aujourd'hui, Léo Prangère. Dans quelques minutes après le journal, vous avez rendez-vous avec Yves Decon pour le téléphone sonne au programme Les Cotes Vestimentaires. Bonne soirée sur France Inter.